Il y a quelque chose auquel on croit beaucoup à Paris Web, c'est les standards, c'est bon, mangez-en, quoi. C'est pour ça que cette association existe. Et c'est pour ça qu'on insiste pour qu'il y ait chaque année quelqu'un du W3C qui soit là pour, bah voilà, bah pour enfoncer le même clou, quoi. Donc, merci Dominique.
Merci. Merci aux organisateurs de la conférence parce que je trouve que la conférence est vraiment très intéressante, même pour moi qui travaille au W3C. Donc, je connais bien les standards, mais d'être là avec vous, de voir toutes les questions qui se posent en pratique, etc., c'est vraiment très agréable. Et qu'il y ait une conférence francophone sur ce sujet, je trouve ça vraiment formidable. Donc vraiment, merci aux organisateurs et je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du web mobile. On a parlé beaucoup d'accessibilité et ça a été évoqué parfois comme à côté du web, de l'accessibilité, la possibilité de faire fonctionner les sites web sur les téléphones portables. Donc, je vais essayer de vous donner un peu le contexte de où se situe le web mobile aujourd'hui, qu'est-ce que le W3C fait à ce sujet, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez vous lancer plus en avant sur toutes les technologies du web mobile. Et je vais essayer aussi de vous convaincre que bah, le web mobile, c'est très bon, mangez-en beaucoup, et qu'en particulier, peut-être que cette conférence, d'ici 2 ou 3 ans, s'appellera Paris Web Mobile, ou même on précisera plus mobile, tellement ce sera évident que quand on parle de web, on parle de mobile par la même occasion. Donc pour ça, je vais d'abord vous présenter très rapidement le W3C et l'initiative pour le web mobile dont je suis responsable. Ensuite, essayer de présenter un peu donc, le web mobile, son histoire, où ça en est, où ça va aller. Voir de manière plus précise ce que le W3C recommande en matière de mobilité, les bonnes pratiques, les outils à la disposition de la communauté pour rendre son site web agréable à utiliser sur un téléphone portable. Et enfin, essayer d'introduire un peu d'autres perspectives sur le web mobile plus large et essayer de voir vers où on peut aller dans les technologies du web mobile. D'abord, qu'est-ce que le W3C? Qui dans la salle ne connaît même pas le W3C? Qui a une petite idée, mais une vague idée de ce qu'est le W3C? Soyez pas timide. Hein, je vais peut-être sauter ce slide alors. Juste pour résumer très rapidement, donc le W3C, c'est cette organisation internationale responsable des standards du web. Ça fonctionne par un système de cotisation. Donc, si vous êtes une compagnie ou une agence gouvernementale, une université, etc., vous pouvez devenir membre du W3C via une cotisation, ce qui vous permet de participer au groupe de travail que le W3C crée sur les différents sujets qui ont besoin d'être standardisés pour le web aujourd'hui ou pour demain aussi. C'est un travail aussi d'innovation parfois. Et cette organisation est gérée par une équipe d'environ 70 personnes à travers le monde, donc principalement en France, aux États-Unis et au Japon, mais on en a en Australie, on en a en Allemagne, plusieurs autres endroits en Europe. Et qui a été donc bien sûr, vous le savez peut-être, fondée et qui est maintenant toujours dirigée par Tim Berners-Lee, qui est donc celui qui a inventé le web au début des années 90 au CERN. Donc bon, c'est peut-être pas la peine de le préciser, mais donc c'est le W3C qui est responsable d'HTML, XHTML, CSS, XML, SVG, bien entendu toutes les règles d'accessibilité et bien d'autres sujets encore. Mais je vais donc passer rapidement là-dessus, vous semblez être très au courant. Qui est-ce qui sait ce qu'est l'initiative pour le web mobile, Mobile Web Initiative? Bon, là j'ai quelque chose à dire. Donc l'initiative pour le web mobile a été lancée en 2005, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, par le W3C, pour essayer de regarder ce qui se passe au niveau de l'accès au web sur les téléphones portables. De la même manière qu'en 1997, le W3C s'est lancé sur la question de l'accessibilité en essayant de regarder comment les personnes handicapées pouvaient utiliser le web et comment ils pouvaient bénéficier des technologies du web pour avoir accès à de nouvelles informations. De manière similaire, le W3C a créé cette initiative. Donc, WAI, ça veut dire Web Accessibility Initiative, donc une initiative pour l'accessibilité du web. Donc, c'est dans ce même esprit que la Mobile Web Initiative a été créée en 2005. Et l'idée, c'est là aussi d'essayer d'accompagner les besoins grandissants de la communauté mobile en matière d'accès au web. Je vais vous donner un peu l'historique juste après de quel était l'état du web mobile à l'époque, quels en étaient les besoins. Mais l'idée de cette initiative du web mobile, c'est vraiment de regrouper toutes les personnes intéressées, tous les acteurs intéressés, industriels ou gouvernementaux par l'utilisation du web sur les téléphones portables à travers cette initiative pour qu'en mettant nos efforts en commun, on puisse obtenir un résultat qui soit meilleur pour tout le monde. C'est un peu dans cet esprit-là que le W3C fonctionne de manière générale. Et donc, dans le cadre spécifique de l'initiative pour le web mobile, ça a été donc regarder comment est-ce que les téléphones portables peuvent devenir une nouvelle plateforme d'accès au web qui soit aussi, voire plus puissante que les plateformes qu'on connaît de manière habituelle. De manière non classique au W3C, bien que ça ait été aussi le cas pour Way, c'est une activité qui est parrainée, sponsorisée par 20 industriels spécifiques qui ont voulu investir plus précisément dans cette zone de travail. Donc il y a Opera, Nokia, Ericsson, enfin on a évidemment des acteurs du web intéressés dans la distribution du web mobile. Et bon, je pensais le signaler parce que c'était un effort de leur part qui, il y a 2 ans, n'était pas forcément évident. Alors le web mobile, pourquoi faire? Et la Mobile Web Initiative, l'initiative pour le web mobile, pourquoi faire? Ceux d'entre vous qui travaillaient dans les nouvelles technologies au moment de la bulle Internet, au début des années 2000, vous vous rappelez sans doute de tout le buzz qu'il y a eu au sujet du WAP. Le WAP va révolutionner la façon dont on utilise Internet. Le M-commerce, c'est l'avenir du commerce, on ne pourra plus s'en passer. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé depuis ce WAP qui, au final, n'a quand même pas vraiment marché? Il y a encore quelques sites web qui existent et quelques utilisateurs du WAP, mais ce n'est quand même pas le grand succès qu'on nous annonçait. Ce qui a changé de manière assez radicale, il faut bien le dire, en 7 ans à peu près, c'est la capacité des téléphones portables qui sont à disposition sur le marché. Entre le petit écran monochrome avec 4 lignes de caractères qui était le mieux qu'on pouvait avoir il y a 7 ans, et l'iPhone que vous avez peut-être déjà aperçu ou sur lequel vous vous ruerez peut-être dans quelques semaines quand il va arriver en France. Il y a une différence de capacité, d'utilisabilité de l'interface, de taille de l'écran, de capacité d'entrée des caractères, etc., qui est assez phénoménale, cette différence. D'autre part, une des grosses différences entre ce qui se faisait il y a 7 ans et ce qui se fait aujourd'hui, et c'est ça aussi qui a été un des déclencheurs de cette initiative pour le web mobile, c'est que tant le WAP 1 s'était créé sur une pile de technologies complètement différentes, ou du moins très différentes des technologies web, il fallait développer des pages en WML qui utilisaient un ensemble de balises qui étaient différents des balises que vous utilisiez pour créer une page web normale. Toute la structure du WAP était différente de ce qui se faisait sur le web. Depuis 2003-2004, ce qui était au début des années 2000 le WAP Forum et qui est devenu l'Open Mobile Alliance, OMA, a travaillé avec le W3C pour remplacer cette pile de technologies qui finalement dupliquer en beaucoup de points ce qui existait déjà en termes d'HTML et d'XHTML, donc a décidé de remplacer cette pile de technologies par les technologies du web. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait d'un côté le WAP et de l'autre le web, on a finalement le web qui va marcher sur un ordinateur aussi bien que sur un téléphone. Donc ce changement d'attitude, qui est aussi un changement d'attitude de l'industrie télécom, qui est ceux qui avaient fondé au départ le WAP Forum, ce changement d'attitude était aussi pour nous un signe clair que le marché était devenu mûr pour que réellement les téléphones portables deviennent un accès privilégié au web. Et si vous suivez un peu les actualités en matière de nouvelles technologies ces 12 derniers mois, l'un des thèmes récurrents qui est difficile de rater, c'est le web mobile, effectivement. J'ai mis cette citation « mobile » qui était la réponse d'Eric Schmidt, l'un des fondateurs de Google, sur qu'est-ce qui va être important cette année en matière de web. Et donc sa réponse, les 3 choses les plus importantes, c'est le mobile. Et si vous avez écouté les annonces récentes, Google a annoncé il y a une semaine la mise en place d'un système d'exploitation qui s'appelle Android et qui est en gros une des zones sur lesquelles Google va investir de manière majeure comme zone d'innovation, de développement nouveau pour Google, qui est quand même une des icônes des compagnies du web. J'ai aussi en fond d'écran le iPhone, que j'ai déjà évoqué. Le iPhone a vraiment permis une certaine prise de conscience du marché sur l'existence et la possibilité d'utiliser son téléphone pour autre chose que passer des coups de fil et envoyer des SMS. Le produit en tant que tel n'est pas une innovation technologique fantastique. L'interface, est, pour ceux d'entre vous qui ont pu jouer avec lui, l'interface est vraiment sympathique, il faut bien le dire. Les technologies qui sont derrière, l'accès au web avec Safari, qui permet de zoomer en s'approchant ou en reculant de la page web, etc., n'est pas une innovation technologique majeure. Ce qui est vraiment important en termes technologiques, c'est que, en particulier aux États-Unis, où la conception même d'aller sur Internet, sur son téléphone portable, était complètement ridicule, il y a une véritable prise de conscience d'un grand nombre d'acteurs du marché que le web mobile, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut y être. Et donc c'est un des messages que j'aimerais vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le web mobile, si vous l'attendez, il sera déjà passé devant vous. C'est vraiment une des zones technologiques sur lesquelles il est vraiment important de commencer à se renseigner aujourd'hui, de commencer à travailler les difficultés, parce que, comme je vais le décrire, c'est une plateforme qui a beaucoup d'intérêt, mais qui pose aussi des difficultés en termes de design web. C'est très certainement une plateforme sur laquelle, si vous n'avez pas encore commencé à travailler, il faudrait s'y intéresser maintenant. Juste un petit sondage, qui est-ce qui travaille déjà sur la plateforme mobile en tant que cible de design? Donc, il y a une quinzaine de mains qui sont soulevées. Donc, l'an prochain, j'aimerais voir la moitié de la salle. Si je suis là, j'espère. Mais... donc oui, encore une fois, mobile, c'est, s'il y a un mot qu'il faut retenir pour moi de cette présentation, c'est pensez-y. Même si je ne vous dis pas que demain, il faut que votre site soit déjà disponible pour tous les téléphones portables, etc. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de simple à vendre, à expliquer. Au moins en termes d'acquérir la compétence, d'explorer la plateforme, il ne faut plus attendre. C'est maintenant qu'il faut commencer à s'intéresser à cette plateforme. Donc pour revenir sur l'initiative sur le web mobile et pour introduire aussi le sujet principal de cette présentation qui sont les bonnes pratiques pour le web mobile, juste un aperçu de ce que l'initiative pour le web mobile englobe, c'est essentiellement trois groupes de travail. Donc encore une fois, le W3C fonctionne sur le principe un groupe de travail qui développe une ou plusieurs spécifications. Et donc l'initiative pour le web mobile a trois groupes de travail. Un groupe de travail sur donc, les bonnes pratiques pour le web mobile, ce qui est ce que je vais vous présenter juste après. Un groupe de travail sur la description des appareils mobiles, je vous en dirai aussi quelques mots un peu plus tard. Et enfin, un groupe de travail qui s'intéresse plus à toutes les questions d'interopérabilité entre les navigateurs, les suites de tests, etc. Donc, pourquoi est-ce que il y a un groupe de travail sur les bonnes pratiques du web mobile? Et de manière générale, pourquoi a-t-on besoin de bonnes pratiques pour le web mobile? Qui parmi vous a un téléphone portable? Le taux de pénétration des téléphones portables dans la population française, est, je ne sais pas s'il a encore déjà dépassé les 100%, mais on y est presque. Il y a de personnes qui ont plus d'un téléphone par personne. Qui est-ce qui a utilisé au moins une fois le web sur son téléphone portable? Qui est-ce qui l'utilise une fois par semaine? Ça, c'est SEM. Qui est-ce qui l'utilise une fois par jour? Voilà. Donc, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens essayent une fois leur accès à Internet sur le téléphone portable, mais ne l'essayent pas une deuxième fois, c'est que c'est parfois vraiment atroce. On se retrouve face à une page web où on n'arrive vraiment pas à se repérer où on est. On ne sait pas très bien comment est-ce qu'on peut naviguer. On est obligé de déplacer la barre de scrolling, je sais plus comment, de défilement en horizontal, en vertical, c'est un peu une horreur. Et c'est vrai que quand on a eu une mauvaise expérience de ce genre, qu'on a reçu sa facture ensuite, on se dit oui peut-être, mais peut-être non. Et donc une des raisons qui a motivé ce travail sur les bonnes pratiques du web, c'est que les technologies sont là, effectivement, mais il ne suffit pas d'avoir les technologies et aussi bien en termes de markup et en termes de téléphone, il faut aussi indiquer à ceux qui créent le contenu comment les utiliser de manière pratique pour qu'on puisse donner aux utilisateurs de téléphones portables des sites qui leur donnent envie de revenir plutôt qu'envie de jeter leur téléphone par la fenêtre. Donc, le groupe de travail sur les bonnes pratiques a essayé de regarder un peu ce qui était déjà recommandé par les différents constructeurs de navigateurs ou constructeurs de téléphones portables, etc. On a aussi beaucoup regardé les WCAG 1.0 dans la mesure où, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, il y a finalement pas mal de similarités entre les problèmes d'accès sur un portable et les problèmes d'accès que peuvent rencontrer les personnes handicapées. Et à travers ces différentes sources, on a donc produit un document donc, qui s'appelle Mobile Web Best Practices, à savoir les bonnes pratiques du web mobile, dont par ailleurs j'ai des petites flip cards qui résument en gros le contenu. J'en ai pas pour tout le monde, mais donc ceux qui sont intéressés, je pourrai en distribuer après la conférence. Et donc ce document essaye de regarder en gros la situation du web appliquée au téléphone portable. Donc une des choses qu'on essaye d'expliquer avec comme cible principale ceux qui ont déjà créé un site web pour un ordinateur de bureau typiquement, mais n'ont jamais eu l'occasion de se confronter à la plateforme mobile, c'est vraiment ça la cible de ce document, c'est d'expliquer quelles sont les contraintes qu'apporte la plateforme mobile. Donc typiquement, vous avez un petit écran. Quand vous avez un clavier, il est souvent uniquement numérique et il faut appuyer 18 fois pour obtenir la lettre que vous cherchez. Il n'y a pas de souris. Ou parfois, vous aurez un système de pointage, mais dans la majorité des cas, vous n'en aurez pas. Et donc là, si vous regardez déjà ces trois contraintes, qui sont qu'un sous-ensemble des contraintes qu'on développe dans le document, mais ces trois contraintes-là sont des contraintes qui ressemblent beaucoup aux contraintes qu'on peut retrouver en matière d'accessibilité. Donc le document explique bien ces contraintes, aussi la contrainte que j'évoquais tout à l'heure, qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de pays, et en particulier en Europe, et on peut espérer que ça va changer bientôt avec les nouveaux développements, mais le coût de l'accès au réseau reste encore assez important, et donc en particulier l'aspect interaction avec le réseau est un aspect important à prendre en compte quand on développe pour un téléphone portable. Il essaye aussi d'évoquer les points forts de la plateforme, et je vais vous les résumer un peu rapidement, mais à mon avis, c'est aussi très important de bien les comprendre, parce que c'est ces points forts qui vont faire que, à mon sens, du moins, le web mobile a un potentiel en termes de déploiement qui est absolument considérable. Une des premières choses, vous l'avez vu, vous avez tous un téléphone portable. Je suppose que parmi ceux qui en possèdent un, 75, 80, 90% d'entre vous doivent l'avoir sur vous. Même s'il y a marqué interdit d'apporter son téléphone portable à l'entrée de la salle, je doute qu'aucun de vous ne se soit séparé de son téléphone. C'est un objet qu'on a tout le temps avec soi. Son ordinateur portable, on l'a de plus en plus, et certains d'entre vous l'ont à l'heure actuelle, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est assez cher. Donc, pas tout le monde ne peut se permettre d'avoir, contrairement aux téléphones qui, même si individuellement ils peuvent être chers, sont souvent subventionnés par les opérateurs. Ce sont des objets aussi qui sont, au final, extrêmement complexes à manipuler. Comme nous disait Myriam hier, certaines personnes ne savent pas allumer un ordinateur. Alors, combien même le mettre sur Internet, le maintenir à jour, le gérer, le réparer s'il est en panne. Des problèmes qui sont nettement moins importants sur les téléphones portables. Et l'autre aspect qui est vraiment intéressant en tant que plateforme, c'est que les téléphones sont très souvent des objets extrêmement personnels, c'est-à-dire on ne les échange pas trop, et en général, quand on utilise son téléphone pour aller sur Internet ou pour envoyer ses SMS, etc., on le fait dans l'optique que c'est un objet qui m'appartient, sur lequel j'investis une certaine confiance. Il y a tous mes numéros de téléphone, il y a mon calendrier, etc. C'est un objet qui est très personnel, que l'utilisateur utilise de manière aussi assez variée dans son quotidien, et qui donc a un potentiel d'interaction en termes de données et de... Excusez-moi, je ne trouve pas les mots. Et de... de possibilités finalement de créer des usages nouveaux sur la plateforme. C'est-à-dire, imaginez, j'ai mon carnet d'adresses, et c'est d'ailleurs déjà le cas plus ou moins sur l'iPhone, j'ai mon carnet d'adresses et je veux savoir comment je vais chez mon ami Bertrand. Je clique à côté de l'adresse de mon ami Bertrand et j'ai un plan qui m'affiche comment y aller depuis l'endroit où je suis. Il y a un potentiel d'innovation à partir de la mise à disposition de ces données que l'utilisateur confie déjà aujourd'hui à son téléphone, qui est absolument considérable et qui fait, à mon sens, du téléphone portable une plateforme extrêmement intéressante à suivre. Et donc le document, à part cette mise en contexte, donc, essaye en 60 bonnes pratiques d'expliquer en gros les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire, les choses à éviter. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc il y a 60 meilleures pratiques, je n'ai même pas 60 minutes, il n'y a aucune chance que je vous les fasse toutes. Les 60 sont décrites, pas détaillées bien sûr, dans ces petites flipcards. Elles sont bien entendu détaillées intégralement sur le site web du W3C, donc je vous invite à aller les voir après coup. Mais pour essayer de résumer un peu la situation, j'ai essayé de retirer 10 principes généraux. Je les appelle 10 commandements, mais il n'y a pas de foudre divine qui va s'abattre sur vous si vous ne le respectez pas. 10 principes généraux qu'il faut essayer de garder à l'esprit quand on développe un site, soit spécifiquement pour les appareils portables, soit pour qu'il fonctionne à la fois sur un appareil portable et sur un ordinateur de bureau et sur une autre plateforme. Donc le premier commandement, le fameux OneWeb, il n'y a qu'un web. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit, les premiers téléphones portables avaient cet ensemble de technologies différents, le WAP, qui a plus ou moins échoué, etc. Nous, ce qu'on essaye de promouvoir, merci. Il faut faire les présentations communautaires, il n'y a que ça qui marche. Il me faudrait un wiki qui parle à ma place. Ce qu'on essaye de promouvoir, c'est qu'au lieu que vous ayez votre site www.example.com et puis que vous ayez mobile.example.com et que vous ayez Wii.example.com si vous voulez vraiment cibler les utilisateurs de la Wii, ce qu'on dit, nous, c'est vous avez votre site www.example.com. Eh bien, faites en sorte que ce site, cette adresse et les adresses qui sont sur ce site soient données à tous les appareils de manière adaptée à chaque appareil. Ça veut dire soit que chaque page de votre site web en tant que telle va être accessible à la fois au téléphone, aux ordinateurs de bureau, aux consoles de jeux, au frigidaire de dans 5 ans, soit vous utilisez ce qu'on appelle les systèmes d'adaptation de contenu qui vont faire le travail à votre place, de sorte que sur l'ordinateur de bureau, vous pourrez envoyer les 50 mégas de vidéos qu'il faut absolument que votre utilisateur voit, tandis que sur le téléphone portable, vous irez peut-être plus à l'essentiel en essayant de garder un nombre de téléchargements, par exemple, plus réduit. Donc, les deux options sont tout à fait valables et dépendent essentiellement du contexte dans lequel vous vous situez en termes de développement web. Mais nous, ce qu'on essaye de dire, c'est du moment que vous avez un site web, plutôt que d'avoir 10 sites web, donc le site accessible, le site mobile, le site pour les ordinateurs qui ont moins de 5 ans, les sites pour les frigidaires dans 5 ans, vous avez un seul espace d'adresse web et vous faites en sorte que cet espace d'adresse web soit utilisable de manière uniforme au travers de des différentes plateformes d'accès au web. Donc ça, c'est vraiment le principe général de « il n'y a qu'un web ». En respectant les standards du CODRA, c'est ce qu'on appelle en l'occurrence prêcher à des convertis. Essentiellement, c'est déjà ce que Chris évoquait tout à l'heure. Donc sur les ordinateurs de bureau, à l'heure actuelle, on peut répartir... Allez, on va dire qu'il y a 4-5 principaux navigateurs. Sur les téléphones portables, le plus gros navigateur a une part de marché de 6%. Ça peut vous laisser imaginer le nombre de navigateurs qu'il y a disponibles sur le marché. Et en particulier, ça veut dire que les problèmes d'interopérabilité que vous me disiez déjà sur les ordinateurs de bureau sont 10 fois plus complexes sur les ordinateurs portables. Et donc, vous avez vraiment, vraiment, vraiment intérêt à utiliser les standards à fond plutôt que de faire des magouilles en espérant que ça marchouille. Excusez-moi. Oui, vous avez vraiment intérêt à utiliser les standards XHTML, etc., pour avoir une interopérabilité maximale plutôt que d'essayer d'utiliser du tag soup, je ne sais pas si on dit ça en français, mais... soupe de balise. Plutôt que de la soupe de balise. Troisième commandement, les difficultés connues, tu éviteras. Là encore, je pense que je prêche à des convaincus, mais c'est déjà pas terrible d'utiliser des frames sur un ordinateur de bureau. Imaginez votre petit écran de portable dont la moitié est prise par une frame. Imaginez qu'il ne reste pas grand-chose pour le contenu qui peut être dans l'autre frame. Donc, par exemple, les frames, ce n'est même pas la peine d'y penser. Les autres choses qu'on essaye de dire de ne pas utiliser, par exemple, c'est de ne pas avoir des balises array, ce qui vous permet d'avoir des images sur lesquelles vous pouvez pointer pour aller sur un lien particulier en fonction de la position dans l'image. Le problème étant que sur un téléphone portable dans lequel vous n'avez pas de système de pointage, c'est très rapidement inutilisable. Quatrième commandement, les limites des mobiles, tu respecteras. Donc là encore, c'est quelque chose qui, pour ceux qui s'intéressent à l'accessibilité, est presque évident, c'est-à-dire tous les navigateurs ne supportent pas le JavaScript. C'est encore plus vrai, bien sûr, sur les téléphones portables. Et même quand il y a JavaScript, ça va consommer plus de mémoire, plus de batterie, etc. Tous les navigateurs ne supportent pas les cookies, ce qui... est déjà moins facile à gérer. Donc on essaye de mentionner quelques-unes des choses qui sont parfois admises comme étant évidentes sur les ordinateurs de bureau, mais qui ne le sont pas encore ou ne le sont pas du tout sur les téléphones portables. Et donc on essaye d'attirer l'attention sur ces points-là pour que, quand vous développez pour cette plateforme, vous évitiez de partir du principe qu'ils sont forcément disponibles. Le cinquième principe, la navigation, tu optimiseras. Il y a certains sites web que je ne citerai pas, mais vous arrivez dessus avec votre téléphone portable, 30 pages plus loin, vous commencez à voir le contenu, et évidemment, dès que vous cliquez sur un lien pour aller sur une autre page, vous retapez 30 pages de navigation, si bien que vous n'utilisez une fois ce site, mais vous ne l'utilisez pas une deuxième fois. Et je vais utiliser un site de renseignement téléphonique, c'est quelque chose d'utile a priori sur un téléphone portable, mais à chaque fois, pour télécharger la page, vous aviez besoin de 300 kilooctets et vous tombiez sur des pages et des pages de navigation avant d'avoir le formulaire dans lequel vous vouliez effectivement rentrer les données. Donc, essentiellement, la navigation, c'est quelque chose de très important sur un téléphone portable, de réfléchir à ce qu'il faut vraiment mettre en avant au sommet de la page, typiquement, et qu'est-ce qui peut être mis plus loin, plus tard dans la page. Les graphiques et les couleurs, tu vérifieras. Encore quelque chose de proche de l'accessibilité. Sur les téléphones portables, la plupart du temps, maintenant, il y a de la couleur, mais pas toujours. Et même quand il y a de la couleur, pour peu qu'on soit au soleil, on aura un contraste qui sera beaucoup moins bon sur l'écran dans la plupart des cas. Les graphiques, si vous envoyez une image de 1024 pixels de large sur votre téléphone portable, ça ne va pas donner un résultat extrêmement intéressant. Donc, c'est toutes ces choses-là auxquelles il faut aussi penser en termes d'écran quand on design pour un téléphone portable. La parcimonie, tu utiliseras, donc envoyer des petites images, essayer d'avoir des textes qui ne fassent pas 18 pages, parce que lire « Guerre et paix » sur son téléphone portable, ce n'est pas forcément la chose que l'utilisateur moyen va rechercher. Je suis sûr qu'il y a un utilisateur dans cette salle qui le ferait, mais de manière générale, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche quand on est dans la situation d'accès au web sur un téléphone portable. Du réseau, tu n'abuseras pas, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Une des grosses différences qui persiste aujourd'hui, dont on espère que ça va disparaître dans les années à venir. Il y a eu plusieurs annonces récemment, par exemple en France, sur le sujet, mais il reste qu'aujourd'hui, l'accès au réseau depuis un téléphone portable est assez coûteux, reste aussi lent, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. La 3G et la 3G+, sont en train d'améliorer les choses, mais La plupart des gens n'ont encore accès qu'à des réseaux GPRS, donc avec une bande passante assez limitée, et surtout des systèmes des problèmes de latence, c'est-à-dire de délai entre le début d'une requête et la réception de la requête qui reste assez important. Donc, quand on fait un design pour le web mobile, on essaye de ne pas avoir des téléchargements de 50 mégas tout le temps, de ne pas faire des requêtes, 10 000 requêtes par page, etc. Donc, de manière générale, on essaye d'être prudent sur l'utilisation du réseau. L'utilisateur te guidera, encore une fois, très proche des consignes d'accessibilité. Sur un téléphone portable, c'est important de savoir à quel champ est relié quel label, de savoir dans tel champ si ça va être un nombre qui est attendu ou si ça va être des caractères de manière générale, etc. Et enfin, le dernier principe, mais qui est, j'allais dire, le principe le plus qualitatif, mais aussi sans doute le plus important si vous voulez vraiment investir la plateforme mobile, c'est qu'il faut absolument se concentrer sur l'utilisateur en situation de mobilité. À l'heure actuelle, quand on utilise son téléphone portable pour accéder au web, ça reste que c'est parce qu'on n'est pas devant son ordinateur. Il y a quelques personnes qui commencent à n'en avoir pour accès web que leur téléphone portable. Il faut le dire aussi, il y a beaucoup de pays dans lesquels la situation est que la plupart des gens n'accèdent au web que par leur téléphone portable, mais je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, en France, en Europe et même dans la plupart des pays, prendre en compte le fait que l'utilisateur puisse être dans une situation de mobilité, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément un temps fou à consacrer à votre page web, qu'il peut être à la recherche d'une information très précise qui va concerner l'endroit où il est ou l'endroit où il va, etc. Donc prendre toutes ces considérations dans le design de votre page web ou de votre application web mobile est vraiment capital pour faire un site web qui sera vraiment agréable, intéressant, utile pour l'utilisateur. C'est évidemment un principe d'ergonomie générale, penser à l'utilisateur. Dans le cadre du web mobile, c'est encore plus important puisque l'utilisateur peut se retrouver très rapidement dans une situation de frustration due aux contraintes de l'interface. Et donc, vous avez vraiment besoin d'être attentif, gentil face à vos utilisateurs. En pratique, ça fait beaucoup de principes et je suppose que la plupart d'entre vous ne vont pas avoir le temps de lire les Mobile Web Best Practices avant un certain temps, n'auront pas forcément accès à ces petites tablettes et ou ne sont pas suffisamment intéressés dans la plateforme mobile à l'heure actuelle pour investir de manière très forte là-dedans. Donc, j'essaye de donner quelques principes pour j'allais dire, le travail minimal qu'on peut faire en termes de web mobile. C'est évidemment pas suffisant pour obtenir quelque chose de super excitant, mais pour avoir au moins les idées de base dans la matière, j'espère qu'au moins ça donnera quelques idées. Donc, vous savez sans doute qu'il y a plusieurs variantes d'XHTML, d'HTML, etc. Il existe XHTML basique 1.1. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est XHTML 1.0 où on enlève les éléments qui sont connus comme étant vraiment insupportables sur un téléphone portable. Donc, vous n'aurez effectivement pas le tag array, vous n'aurez pas la possibilité d'imbriquer des tableaux, Dieu soit loué. Donc, c'est essentiellement XHTML basique strict avec quelques éléments supprimés et un attribut ajouté qui est l'attribut input mode, qui permet de dire dans ce champ d'entrée, là j'attends des chiffres, là j'attends des caractères, là j'attends des majuscules, etc. Ce qui permet, comme je disais tout à l'heure, d'aider l'utilisateur lorsqu'il doit rentrer du contenu dans un formulaire. Une autre ligne de conduite, et j'ai l'impression que beaucoup parmi vous sont déjà bien au courant sur le sujet, à utiliser quand on fait du design pour le web mobile, si votre contenu est accessible, vous avez déjà un travail énorme qui est fait en termes d'accessibilité sur un téléphone portable. Comme je le disais, il y a beaucoup de points communs entre les difficultés qu'un utilisateur peut avoir du fait des limitations de son téléphone et les difficultés qu'il peut avoir du fait de handicap ou de déficience, par exemple visuelle ou autre. Donc si vous connaissez déjà les bons principes de l'accessibilité, vous aurez fait un pas de géant déjà pour le web mobile. Malheureusement, je ne sais pas si la quatrième ligne est très claire. quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement extrêmement utile pour faire du design web mobile très rapidement, c'est d'avoir des feuilles de style spécifiques pour les téléphones portables. Il existe en HTML et CSS ce qu'on appelle les CSS Media Type, qui permettent de dire cette style sheet ne s'applique que aux ordinateurs qui se reconnaissent comme étant des ordinateurs complets, on va dire, ou des téléphones portables, ou par exemple, vous pouvez utiliser le même principe pour avoir un design spécifique pour lorsque vous imprimez votre page, donc Media Ideal Print. Donc, dans le cas des téléphones portables, c'est le Media Type qui s'appelle Handheld. Et donc Media Type Handheld, ça va indiquer au téléphone portable qu'il a intérêt à charger cette style sheet pour obtenir une présentation qui soit adaptée au téléphone portable. Et à côté de ça, vous auriez sur une autre, votre autre lien pour la style sheet, Media égale Screen. Et dans ce cas-là, le téléphone portable ne chargera que la feuille de style handheld. Donc ça permet d'avoir pas mal d'adaptations finalement à peu de frais au niveau du client, d'avoir des images qui se chargent par exemple uniquement dans la CSS screen, etc., etc. Donc comme approche, j'allais dire minimale du design web mobile, c'est quelque chose qui marche assez bien. Moi par exemple sur mon blog professionnel, c'est pas un contenu qui est tellement intéressant que j'ai voulu investir des dizaines d'heures pour le rendre absolument parfait sur tous les téléphones portables, mais en utilisant les feuilles de style spécifiques pour les mobiles, il est passé d'un état où c'était un peu l'horreur à utiliser sur mon téléphone à un état où maintenant il est même agréable à utiliser. Donc ça ne marchera pas pour les sites forcément très compliqués, etc. Mais pour un site simple ou qui est spécifiquement orienté, contenu, etc., ça peut être une approche intéressante. Excusez. L'autre principe sur lequel j'insiste, encore une fois, limiter les accès réseau, hein, donc éviter d'avoir 12 petites images à télécharger pour faire des boulettes de listes. Si vous en avez une ou que vous utilisez du style, ce sera nettement mieux que d'avoir 12 images différentes à télécharger. Utiliser les propriétés de cache de HTTP pour permettre de ne pas avoir rechargé des images qui ont déjà été téléchargées, etc. Et enfin, je réinsiste encore une fois, pensez à l'utilisateur qui n'aura pas forcément beaucoup de temps, qui sera peut-être dans une situation de mobilité, etc. Donc à partir de ces best practices, le W3C a développé un label de qualité qui s'appelle Mobile OK Basic. Et Mobile OK Basic, c'est essentiellement un ensemble de tests automatisables, c'est-à-dire qui peuvent être effectués par un ordinateur, et qui vont essayer de détecter les plus gros problèmes, les plus grosses bourdes qui peuvent exister sur un site web par rapport à la mobilité. Donc c'est directement tiré des Mobile Web Best Practices. Et c'est une sélection, un sous-ensemble de ces best practices qui peuvent être, en gros, vérifiés automatiquement. Et donc, Mobile OK Basic est sorti en recommandation candidate, donc assez en avant dans le processus W3C, la semaine dernière. Et donc, je vous invite très fortement à regarder ce label si le web mobile est quelque chose qui vous intéresse. Et en particulier, comme ces tests sont automatisables, W3C a aussi produit un Mobile OK Checker, donc validator.w3.org/mobile/alpha. Donc le alpha dans cette adresse signifie que le système est encore extrêmement expérimental, vous allez sans doute réussir à le faire crasher, ou il ne vous répondra pas, ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir ce que Mobile OK Basic définit, d'essayer de voir où vous en êtes si vous êtes intéressé par tout ce qui est mobilité, et aussi de nous renvoyer un retour sur Mobile OK Basic. Hein. Encore une fois, la spécification est toujours en cours de développement, donc on est intéressé d'avoir du retour de la part des designers web, de savoir ce qui paraît peut-être abusif si vous pensez qu'il y a trop de contraintes, etc. Donc encore une fois, c'est quelque chose que je vous invite très fortement à utiliser, à vérifier, et surtout à nous faire des retours. Voilà, merci. Et en particulier, donc en général, communication avec le double tracé se fait plutôt en anglais, mais surtout, vous n'hésitez pas à m'écrire personnellement en français si c'est plus facile pour vous. Hein. Je vous donnerai mon adresse email tout à l'heure. Donc, je vais passer très rapidement. Oui, juste un petit mot. Si vous commencez à regarder les mobile web best practices, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, quelle horreur, encore des contraintes, on ne va plus pouvoir rien faire ». C'est parfois un peu l'impression qu'on en a. En pratique, si vous avez déjà pris en compte toutes les questions d'accessibilité, encore une fois, je pense que c'est moins le cas. Et de manière générale, moi, je suis un partisan de penser qu'au contraire, ces contraintes sont aussi une source de créativité qui est énorme. C'est Michel-Ange qui disait « L'art vit de contraintes et meurt de liberté ». Et quand vous regardez tout ce qui est création artistique de manière générale, vous constatez que finalement, on part de principes qui sont très bien établis, où on a finalement assez peu de possibilités et qui donnent lieu à des Mozart et des Bach, et que finalement, ensuite, on peut dépasser ces contraintes et créer de nouvelles contraintes, créer de nouvelles possibilités d'innover, mais que finalement, ces contraintes, elles sont parfois pénibles, mais elles sont aussi source pour vous de possibilités de créer, possibilités d'inventer de nouvelles interfaces, possibilité finalement aussi de créer une nouvelle façon d'interagir avec l'utilisateur. Et au-delà de ce que je fais dans le mobile, moi je fais aussi du développement en interne au sein du W3C. Et je veux dire que cette possibilité justement d'inventer de nouvelles choses, pour moi c'est quelque chose que je trouve très motivant. Et donc j'espère que malgré ces contraintes, vous serez quand même intéressé et motivé par la plateforme mobile. Vu le temps qui me reste, je crois que je vais passer les deux autres groupes de travail parce que je ne vais pas avoir le temps de décrire ce qu'ils font. Je pourrais en parler pendant les questions si ça vous intéresse. Je vais juste essayer d'introduire deux sujets qui me tiennent à cœur. D'abord, qu'est-ce qui va arriver dans le futur dans les téléphones portables ? Donc, à l'heure actuelle, les téléphones portables, on a un peu l'impression qu'ils sont dans le mode « on essaye de rattraper les ordinateurs de bureau et de faire aussi bien ». À mon sens, et avec les technologies qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui, on est vraiment dans une possibilité où finalement les téléphones portables vont permettre de faire des choses plus intéressantes que ce qu'on peut faire sur son ordinateur de bureau. Si vous regardez votre téléphone portable, vous avez maintenant quasiment toujours un appareil photo, voire une caméra. Vous avez la possibilité d'enregistrer du son, vous avez la possibilité d'avoir accès à vos coordonnées GPS, par exemple, ou via la triangulation des réseaux mobiles. Vous pouvez aussi déterminer votre position géographique grâce à cette information. Et toutes ces informations-là, à l'heure actuelle, sur un ordinateur, soit elles ne sont pas disponibles, soit elles sont encore très difficiles d'accès pour l'utilisateur moyen. Donc, ces capacités-là, à l'heure actuelle, elles restent encore assez séparées de l'interface du navigateur. On essaye au sein du W3C de faire en sorte qu'elles deviennent accessibles de manière plus générale. Et personnellement, en tout cas, je trouve que cette possibilité d'interagir avec le carnet d'adresses, d'interagir avec la position géographique, d'interagir avec les données de l'utilisateur telles qu'il a pu les rentrer dans son ordinateur, etc., forme une possibilité d'innovation absolument fascinante. Et donc, j'ai vraiment bon espoir qu'on arrive, grâce aux technologies qui sont en cours de développement au sein du W3C, à encore une fois rendre la plateforme mobile encore plus attirante que la plateforme ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Donc, les technologies, il y a aussi... qui est-ce qui connaît déjà SVG, au moins ce que c'est ? Oh, c'est magnifique. Donc, SVG, il y a donc déjà eu SVG 1.0, SVG 1.1. Il y a SVG Tiny 1.2 qui est en cours de développement. Donc Tiny, ça veut dire que ça s'applique en fait effectivement en priorité aux ordinateurs, aux téléphones portables ou aux appareils à capacité limitée. Et donc SVG Tiny 1.2 a un nombre de fonctionnalités absolument fascinant, avec des possibilités de création d'interfaces qui sont aussi extrêmement riches. Et sur le marché du mobile, contrairement au marché du bureau, SVG a un véritable potentiel de déploiement dans les années à venir et pourrait, par exemple, tout à fait prendre une place plus importante que la place que Flashlight ou Flash pourrait avoir sur ces plateformes-là. Donc SVG Tiny est en cours de développement encore de W3C, mais avec un potentiel très intéressant à suivre. Et complémentaire de SVG Tiny, une spécification qui s'appelle Wikid, qui est en fait décrit comment est-ce qu'on peut intégrer du SVG dans du XHTML et inversement de manière flexible, permettant encore une fois la création d'interfaces graphiques extrêmement riches, etc. On me dit de m'arrêter, donc je vais passer un peu plus rapidement sur les autres technologies. On travaille sur la mise en application d'Ajax et d'XML HTTP Request sur les téléphones portables. Comme je le disais tout à l'heure, créer des couches de connexion entre le navigateur mobile et les différentes technologies qui sont disponibles à un plus bas niveau, donc par exemple la géolocalisation, etc. L'autre aspect que je veux mentionner très rapidement, désolé de dépasser mon temps alloué, c'est finalement, en dehors de notre microcosme européen ou occidental, ce qui se fait ailleurs dans le monde. D'abord, il y a des pays développés, industrialisés comme le Japon ou la Corée, où le nombre d'utilisateurs web mobile est déjà nettement supérieur au nombre d'utilisateurs d'accès à Internet fixe. Une des raisons étant celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le téléphone, vous l'avez toujours sur vous, vous n'avez pas besoin de l'installer, il ne vous donne pas des écrans bleus de la mort, etc. L'autre aspect, l'autre direction dans laquelle on peut regarder, c'est les pays en voie de développement. Un nombre qui est absolument fascinant, à mon sens, il y a 3 milliards d'utilisateurs de téléphones portables sur cette planète. C'est-à-dire la moitié de la population mondiale a un téléphone portable. C'est, à part les transistors de radio, c'est le seul objet au monde, objet technologique, qui soit aussi diffusé. Il y a en comparaison 800 millions de téléviseurs. La diffusion des téléphones portables est absolument gigantesque. Et complémentaire à cette diffusion en nombre, la couverture de la population mondiale par un réseau sans fil est à l'heure actuelle de 80%. 80% de la planète, de la population de la planète, est couverte par un réseau mobile. C'est-à-dire que 80% de la planète, si on lui fournissait un téléphone, aurait un accès à Internet. Donc la capacité que les téléphones portables peuvent apporter en matière de diffusion de l'information dans des zones dans lesquelles le web s'est pour l'instant absolument pas diffusé et dans lesquelles l'accès à Internet est complètement inimaginable aujourd'hui, grâce à ces réseaux mobiles, prend une dimension qui est absolument considérable. Le W3C est en train de regarder ce qu'on peut faire pour aider à la diffusion du web mobile. Je pourrais décrire en plus de détails les différences entre ce qu'on attend dans un pays en voie de développement de ce qu'on attend dans un pays développé pour cet accès mobile. C'est très différent, mais je n'ai vraiment pas le temps, donc je vais devoir laisser ça aux questions s'il y a des gens qui sont intéressés. Quelques notes sur ce que vous pouvez faire si vous êtes intéressé par le domaine. On a un agrégateur de blogs sur la question du web mobile auquel je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Tous nos groupes de travail opèrent en public, donc vous pouvez suivre nos listes de discussions. Vous pouvez aussi devenir membre du W3C, devenir membre du groupe de travail, etc. etc. Envoyer vos commentaires sur les spécifications que j'ai évoquées. Et donc, ces transparents sont en ligne. Je pense qu'ils seront disponibles sur le site web de Paris Web. Donc, si vous voulez m'écrire pour avoir plus d'informations, c'est facile, c'est dom@w3.org. Il y a des liens vers les outils que j'ai montrés, les liens vers l'agrégateur, les liens vers la spécification. Et il y a aussi, qui peut être intéressant pour vous, un séminaire en ligne sur les Mobile Web Best Practices, qui a été fait en français en février, que certains d'entre vous ont peut-être participé, et dont l'enregistrement audio est disponible en ligne avec les transparents qui vont avec. Voilà, merci beaucoup.
Je vous recommande le webinaire. Moi, je t'ai suivi, j'ai eu de la chance en février dernier. De toute façon, je vous recommande tous les webinaires du W3C parce que c'est un vrai plaisir de voir comment ils utilisent la techno. À tout seigneur, tout honneur, mais quand même. Voilà. Des questions, s'il vous plaît, une derrière.
Bonjour Dominique, il n'y a aucun doute, hein, vous nous avez convaincus sur l'avenir du web mobile. Alors moi j'ai une question. Alors moi j'ai une certaine réticence à acheter un téléphone, enfin j'ai un téléphone portable, mais bon l'écran est trop petit. Mais bon, on va avoir de plus en plus des téléphones portables avec un écran assez grand comme l'iPhone. Quand même, naviguer sur ce genre d'appareil, c'est comme vous avez dit, c'est quand même pas génial. Bon, et lire sur ce genre d'écran, c'est pas génial non plus. Moi, je pense que dans quelques années, je vais porter des lunettes de double foyer parce que je passe ma vie devant l'écran et donc je commence à avoir une fatigabilité rapide des yeux. Ma question, c'est est-ce que vous avez déjà amorcé, parce que je découvre ce sujet, est-ce que vous avez déjà amorcé une réflexion sur la vocalisation de ces pages sur ces téléphones portables? Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait absolument développer. Puisque avec un téléphone portable, on peut écouter de la musique, on peut écouter les podcasts téléchargés. Et puis aussi, écouter, par exemple, un article tout en surfant sur le site de Le Monde, et puis aussi l'écouter. Donc, est-ce que ça, vous avez déjà...
Il y a plusieurs efforts en cours qui sont reliés à cet aspect-là. D'abord, on a une technologie qui s'appelle VoiceXML et qui, en fait, permet de faire, en gros, de la synthèse vocale à partir d'une description en XML et qui pourrait être réutilisée dans ce cadre-là. On a aussi tout un travail sur l'aspect multimodal, en fait, de l'accès au web, c'est-à-dire, typiquement, une des choses les plus difficiles à l'heure actuelle sur un téléphone portable, c'est entrer, par exemple, des données dans un formulaire, parce que taper sur les touches, etc., ça reste vraiment très difficile. Et une chose qui serait vraiment intéressante, c'est plutôt que de taper son nom, c'est de dire Azaël Massieu, et que mon nom s'affiche dans le champ d'entrée où on me demande mon nom. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle, mais qui sont malheureusement encore, enfin à mon sens du moins, qui ne vont pas être disponibles très rapidement, parce que ça demande aussi des évolutions technologiques qui ne sont pas encore présentes aujourd'hui, disponibles sur le marché. Et sur le fait d'avoir des pages qui soient lues par le téléphone portable, c'est un peu la même problématique. C'est que pour faire de la synthèse vocale sur un téléphone portable, ça demande des coûts en termes de CPU et de batterie qui sont à l'heure actuelle à peu près impensables par rapport aux capacités des téléphones. Donc, en gros, par exemple, le podcast, d'avoir ces articles disponibles à l'écoute plutôt que juste à la lecture, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien sur un téléphone portable.
Mais là, la vocalisation, par rapport à la navigation, par exemple, c'était pour pouvoir naviguer sur Internet et donc entendre la navigation. Par exemple, avec Jaws, on peut naviguer de lien en lien ou de titre en titre. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais entendre avec un téléphone portable. Bon, effectivement, vous avez raison que intégrer la fonctionnalité de vocalisation.
Ce que les navigateurs font, qui n'est pas de la synthèse vocale, encore une fois, parce qu'il y a le problème de... Enfin, du moins, sur la plupart des téléphones, c'est peut-être... Ce que certains navigateurs font, par contre, c'est de mettre en valeur les systèmes de navigation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à se retrouver au milieu de 10 000 liens, etc., que par des algorithmes d'identification de ce qui a l'air d'être navigation et autres, vous puissiez plus rapidement repérer les liens de navigation, par exemple. Ce qui est intéressant, à mon avis, pour les développeurs de navigateurs aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en termes d'ergonomie, d'utilisabilité, il y a, encore une fois, plein de choses à inventer sur la plateforme portable. Vraiment plein de choses très intéressantes. Et il y a d'ailleurs beaucoup de choses intéressantes qui se font à l'heure actuelle.
Sur la vocalisation, je connais un produit qui s'appelle Talks, qui est embarqué sur certains téléphones de mon employeur, pour ne pas le nommer, qui en gros fonctionne comme Joe sur un ordinateur. Donc vous avez la même chose sur un téléphone portable. Donc ça existe, renseignez-vous. Une question là-haut ?
Oui, bonjour, Raphaël Basili. Donc ma question est plus éditoriale que technique. Aujourd'hui, on écrit différemment pour le print et pour le web. Je voulais savoir si du fait des contraintes des téléphones portables que vous avez cité tout à l'heure, est-ce qu'on s'oriente vers une écriture spécifique pour le web mobile, c'est-à-dire qu'est-ce que pour une même page d'un site internet, on va avoir un contenu pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, et un contenu pour le web mobile?
Donc, je dirais, la réponse facile, c'est que ça dépend. De manière générale, si votre site, son boulot, c'est fournir du contenu avec une approche où finalement c'est très important que l'utilisateur accroche sur le contenu, oui, c'est indispensable parce que effectivement sur l'ordinateur, l'écran est plus sur le téléphone, l'ordinateur, excusez-moi. Sur le téléphone, l'écran est beaucoup plus petit. L'utilisateur voudra passer sans doute beaucoup moins de temps à lire. Il voudra peut-être quelques mots-clés chocs qui vont faire passer le message très rapidement. C'est très différent de ce que vous feriez sur un ordinateur sur lequel vous pouvez essayer de l'attirer, par exemple, avec plein d'images ou de la vidéo ou plusieurs mêmes méthodes d'accès différentes. Sur un téléphone, vous êtes obligé d'aller directement au cœur de ce que vous voulez dire.
Donc du coup, on va à l'encontre du premier principe que vous avez dit tout à l'heure, à savoir un web unique.
Pas tout à fait. En fait, la notion de un web, c'est pas que tout est pareil pour toutes les plateformes. Ça, c'est ce que, en gros, nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est qu'il soit possible de faire tout pareil sur toutes les plateformes et que ça marche. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, pour l'utilisateur lambda, encore une fois, je vais vous parler de mon propre blog, j'ai pas besoin de faire passer un message choc à mes lecteurs et j'utilise juste le fait que je puisse envoyer un résumé, par exemple, au lieu du poste complet. Maintenant, ce qui est important dans les technologies du web, c'est qu'elles permettent aussi cette notion d'adaptation, c'est-à-dire qu'elles ont été designées depuis le départ pour qu'en fonction des besoins de l'utilisateur, de son contexte, etc., tout comme on a aujourd'hui la négociation de contenu, par exemple, pour envoyer à telle personne du français, à telle personne de l'anglais, de manière similaire, vous pouvez très bien envoyer à quelqu'un qui est sur un ordinateur de bureau une page qui sera plus grosse et sur un ordinateur portable une page qui sera plus petite. Et ça reste dans ce principe d'un web unique dans la mesure où c'est les mêmes technologies, ça utilise les technologies web pour faire cette négociation de contenu, etc.
Denis ?
Juste un complément d'information par rapport au taux de pénétration, tu disais qui progressivement augmentait. ComScore, en octobre 2006, avait fait une étude sur ce taux de pénétration à travers les différents pays. Puis en France, c'était 28% des gens qui avaient accès à un téléphone, et qui utilisaient un téléphone pour utiliser le web. Donc c'est quand même déjà pas mal. Si on compare à chez moi, par exemple, où c'est seulement 18% à ce moment-ci.
J'ai certains collègues au Canada et ils comprennent pas, dans l'équipe du W3C, hein, ils comprennent pas qu'on puisse s'intéresser au web mobile. En Europe, on est en retard par rapport au Japon, mais sur l'aspect téléphone portable, on est encore en avance sur les États-Unis et l'Amérique du Nord de manière générale, avec quand même des grands changements en cours du fait, par exemple, de l'apparition de l'iPhone. Mais en particulier, je pense que c'est intéressant pour vous, nous, en Europe, d'investir cette plateforme mobile parce que c'est encore un sujet sur lequel on a finalement un avantage technologique assez important.
Encore trois questions. Excusez-moi. En bas, une deuxième là, et après ce sera tout, parce qu'on n'a plus le temps.
Oui, bonjour. Je vous avais parlé tout à l'heure des médias sur les feuilles de style. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de navigateurs sur les téléphones portables. Est-ce que globalement, ils vont tous respecter ça et aller regarder que la feuille de style handheld? Et ignorer celle qui est pour le screen, ou est-ce qu'il y a de tout? Et en particulier, je pense à Opera et Safari, qui sont dans leur version mobile. Est-ce qu'ils vont effectivement d'abord aller voir la CSS handheld, et est-ce qu'ils vont ignorer la CSS screen?
Alors, de manière générale, la plupart des navigateurs le font. Un petit bémol, c'est que ce qui est certain, c'est qu'une feuille de style handheld ne sera pas lue par les navigateurs de bureau, sauf si vous leur spécifiez explicitement que vous voulez travailler en mode mobile. En général, dans la très grande majorité, la feuille de style handheld sera lue par les ordinateurs portables. Le petit bémol, c'est qu'il y a certains téléphones portables qui vont lire à la fois le handheld et le screen. Donc dans ce cas-là, ça oblige à faire des petits ajustements, par exemple en faisant en sorte que ce qui est dans le screen soit explicitement annulé dans ce qui est dans le handheld. Pour Opera, la situation est très claire. Quand il y a une feuille de style handheld, ils ne vont lire que celle-là et ignorer la feuille de style screen. pour WebKit, qui donc est le, ce qui est sert de S60 sur Nokia, de Safari sur l'iPhone, etc. La situation est moins claire. En fait, ça dépend de certaines configurations et de certains choix aussi technologiques. Mais bon, disons que dans l'ensemble, sur le marché à l'heure actuelle, c'est une technique très simple et qui marche assez bien. Ouais. Elle est pas, évidemment, enfin, malheureusement, dans les technologies web, ce n'est pas garanti à 100% parce que chacun y va de sa petite innovation, mais ça marche assez bien.
Une remarque rapide, tu as beaucoup parlé de téléphone, mais le web mobile, ce n'est pas que des téléphones. Si tu prends quelque chose comme l'iPod Touch ou Nokia, un appareil aussi, il commence à apparaître des appareils qui savent se connecter à Internet via un réseau Wi-Fi, qui n'est d'ailleurs pas non plus un réseau d'opérateurs téléphoniques. La palette est un tout petit poil plus large que les téléphones.
Non seulement ça, mais à terme, l'aspect téléphonique, finalement, va peut-être commencer à se fondre dans la masse des services. Par exemple, la tablette Nokia dont tu parles a un service de téléphonie par SIP, donc voix sur IP. Et finalement, ce n'est pas le but initial de cette tablette que de servir de téléphone. Et il y a certains téléphones qui, finalement, vont commencer à servir de plus en plus comme autre chose que téléphone. Et l'iPod Touch est assez classique. C'est finalement un iPhone sans le téléphone, parce qu'il y a une utilisation effectivement qui se fait sans l'aspect téléphonique. L'aspect réseau mobile, opérateur mobile, reste aussi indépendant de finalement l'accès d'avoir un téléphone ou pas. On peut très bien brancher son ordinateur portable sur un réseau mobile GPRS aujourd'hui sans avoir forcément un aspect téléphone associé. Donc effectivement, j'ai simplifié en parlant de téléphone portable, mais c'est tout à fait exact. Et c'est là aussi, à mon avis, une zone d'innovation très intéressante pour toute cette question de la mobilité. C'est qu'en termes de forme des appareils, d'interaction, etc., il y a encore plein de choses à inventer.
Qui n'étaient pas agréés par AT&T au prétexte que ça pouvait casser le réseau. Vous aurez entendu le même argument avec Apple, AT&T et l'iPhone sur les applications que Apple autorise sur l'iPhone.
Okay.
Dernière petite remarque, Aurélien
Lévy. Deux petites questions très rapides. Pour revenir à une question qui a été posée au début, est-ce qu'en fait, plus largement, est-ce que le W3C travaille sur la partie accessibilité, mais de l'interface en elle-même du téléphone, plutôt que l'accessibilité du contenu qui réutilise WCAG ? C'est la première question. Et deuxième question, quelle est la position du W3C vis-à-vis du point MOBI au niveau des URL qui va un peu à l'encontre justement de cette notion d'avoir un site unique valable avec une seule URL et qui fonctionne sur plusieurs plateformes.
Vous avez entendu au fond ?
Je répète.
Première question, qu'en est-il de l'accessibilité des interfaces elles-mêmes ? Deuxième question, quelle est la position du W3C sur le point MOBI dans la mesure où le W3C aimerait avoir une seule interface, genre un point com, et puis après on fait de la négociation de contenu.
Donc sur l'accessibilité des interfaces, on n'a rien de spécifiquement encore en cours au W3C. C'est un sujet qui commence à être pas mal abordé justement par toute la recherche en matière d'ergonomie et d'accessibilité, parce qu'effectivement, c'est le prochain sujet important. On est en train, au sein du groupe de travail sur les bonnes pratiques, déjà d'établir une liaison assez poussée avec justement l'initiative sur le web, l'accessibilité du web, pour voir, d'abord essayer d'identifier les similarités et éventuellement les oppositions, bien qu'a priori il n'en ait pas entre les bonnes pratiques du web mobile et les WCAG. Donc on est en train d'essayer de travailler de manière un peu plus avancée sur ces sujets-là avec WAI, mais pour l'instant on est vraiment au balbutiement, il n'y a pas encore de résultats vraiment concrets à montrer. Sur Dotmobi, bon d'abord Dotmobi, ils sont membres du W3C, ils sont sponsors de l'initiative du web mobile. L'éditeur principal des Mobile Web Best Practices est employé par Dotmobi. Donc, ils sont, enfin, de ce que j'en sais, ils sont en accord avec ce principe qu'il n'y a qu'un seul web et qu'en particulier, il faut éviter la multiplication des adresses, etc. Ma compréhension en termes de ce à quoi Dotmobi peut servir, c'est que ça permet d'afficher directement dans son URL qu'on a une version mobile de son site web qui est disponible. Personnellement, d'ailleurs le W3C de manière général pense qu'il vaut mieux avoir un seul nom de domaine et faire tout sur ce nom de domaine-là. Maintenant, l'impact marketing que peut avoir un nom .mobi, ça, il appartient à chacun de déterminer s'il est intéressant ou pas.
Voilà, merci beaucoup, Dominique. Il y avait encore deux ou trois questions, mais on va avoir un petit coup de table ronde juste après, donc il y aura plein d'occasions de poser des questions. Merci, Dominique.
Dominique. Encore une fois, et avant que je distribue mes deux bouquins...